ポカピンポカピン、ポカピン。
Bonsoir, bienvenue dans cette émission universelle qui vous propose trois thèmes à savoir. Le président américain Barack Obama a promulgué lundi à Washington une loi pour combattre les rebelles ougandais de la LRA. Ensuite, lancement depuis mardi dernier d'un nouveau recrutement politique au sein de la majorité présidentielle dénommé Centre libéral et patriotique. Et enfin, le député national Martin Concolle de l'opposition et un magistrat de siège sont traînés depuis mercredi dernier devant la haute cour dans une procédure de flagrance. Trois journalistes participent à ce débat, il s'agit de Max Mukebayi, il est directeur du journal Le Congo News, c'est un bi-hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Luc Roger Mbala, il est directeur de rédaction au quotidien L'Observateur, c'est un journal qui paraît aussi à Kinshasa. Et Pascal Bamanaï, il est journaliste indépendant. Loi sur le désarmement de la LRA et nouveau regroupement à l'ANP ainsi que l'affaire Martin Concolle, tels sont les thèmes retenus pour les débats de ce soir. Écoutons comment la presse kinoise a traité ces différents sujets à travers cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Les journaux parlent cette semaine à Kinshasa ont fixé leur projecteur sur la promulgation par le président américain Barack Obama d'une loi pour combattre les rebelles ougandais de la LRA. Selon Le Potentiel, cette loi stipule que la politique des États-Unis est d'appuyer les efforts visant à protéger les civils contre l'armée de résistance du Seigneur, à appréhender ou écarter du champ de bataille Joseph Kony et ses hauts commandants en l'absence persistante d'une solution négociée, ainsi qu'à désarmer et à démobiliser les restes des combattants de la LRA. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la création d'un nouveau regroupement des forces politiques et sociale au sein de l'alliance de la majorité présidentielle. Le Phare estime que la naissance officielle du centre libéral et patriotique vient confirmer le malaise qui secoue l'alliance de la majorité présidentielle. La tempête des tropiques qui prédit l'éclatement de l'ANP croit savoir que les tenants de ce regroupement politique tels que Olivier Kamitatou, José Ndungo, Moussa Nyamwesi cachent leur intention réelle en créant une structure avec une charte différente de celle de la plateforme présidentielle au nom de laquelle ils prétendent toujours parler. Terminons cette revue de la presse avec l'affaire Martin Mukonkole devant la Cour suprême de justice. La prospérité qui signale que Martin Mukonkole, en résidence surveillée, rappelle que l'élu de la circonscription électorale de Kabinda au Kasaï oriental fait l'objet de poursuites judiciaires depuis mercredi dernier sur base d'une procédure de flagrance. Le parquet général de la République retient trois chefs d'accusation à sa charge. Vol, recel des biens et association des malfaiteurs.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Mike Mkebay, vous êtes directeur du journal Congo News, c'est un bi-hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Et votre commentaire par rapport à la manière dont la presse a traité ces différents sujets?
Ah, il est toujours difficile de donner un avis sur le travail des confrères, par respect pour eux. Je crois que la presse a ramassé dans l'ensemble les principaux sujets d'actualité, c'est tout ce que je peux dire.
Monsieur Rosimbala, vous êtes directeur de rédaction au quotidien L'Observateur, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Votre réaction?
Oui, les confrères ont essayé de faire de leur mieux, comme a dit Mike. Chacun a essayé de traiter les informations de manière diversifiée et en tenant compte de la ligne éditoriale de chaque journal.
Pascal Bamanaï, journaliste indépendant, comment réagissez-vous par rapport au traitement que la presse a fait des différents sujets?
En fait, les confrères ont en fait, informé l'opinion, la population, ce qui se passe au pays. Ils ont relayé par le voix des ondes ce qu'il y a en activité au niveau des pays.
Merci, nous passons à notre premier thème ce soir. Le président américain Barack Obama a promulgué lundi à Washington une loi pour combattre les rebelles ougandais de la LRA. Les États-Unis déterminés à neutraliser l'armée des résistances du Seigneur LRA en cible, le président américain Barack Obama a promulgué lundi soir à Washington une loi pour combattre ces rebelles qui ont commis beaucoup d'atrocités en Afrique centrale, notamment dans la province orientale en République démocratique du Congo. Les détails avec José Deschartes-Menga.
Ce texte de loi prévoit que les États-Unis doivent protéger les civils contre la NRA. De ce fait, il faut appréhender Joseph Kony, le chef rebelle, ses hauts commandants et les traduire en justice. Il faut désarmer et démobiliser le reste des combattants de la NRA. Cette loi demande à Barack Obama de lever une stratégie globale afin de mettre définitivement fin aux violences perpétrées par la NRA. Ce texte de loi avait déjà été voté par le Congrès américain en mai 2009. Il avait été présenté par 226 parlementaires américains, représentant 49 États, soit 90% de la population américaine. Barack Obama l'a promulgué devant d'importants membres du Congrès et des représentants de la société civile. Les ONG rapportent qu'en l'espace de 17 mois, la NRA a assassiné brutalement plus de 1500 civils et en a enlevé plus de 1600 autres, parmi lesquels des enfants. Rappelons qu'une centaine d'ONG, dont Human Rights Watch, ont adressé à Barack Obama le cri de détresse des populations congolaises du territoire de Niangara en province orientale. C'était le week-end dernier, dans une lettre ouverte qu'elles lui ont adressée.
Majin Tebayi, c'est une première, hein. C'est la première fois que la RDC se trouve concernée par une telle loi. Comment vous analysez cela?
Je crois qu'il faudra, à mon point de vue, mettre cette loi en relation avec l'existence de ce qu'on appelle l'Afrikomande, donc le gouvernement américain en Afrique. Et c'est une structure militaire qui est mise en place depuis quelques temps. Et voilà que là, les Américains décident d'intervenir un homme dans une partie de la République démocratique du Congo. C'est une zone très sensible aujourd'hui. Il faut considérer que le Sud-Soudan, qui est très riche, connaîtra un référendum dans les prochains jours. C'est une donne à intégrer dans ces calculs. Est-ce que ce n'est pas en prévision de ces bouleversements que le petit Soudan pourrait connaître, que les États-Unis vont prépositionner ces hommes? Parce que je comprends que c'est vrai, il y a la dimension humanitaire qui touche un pays qui se veut le gendarme du monde, qui pense qu'il a la mission de protéger les autres les plus faibles. Mais il n'y a pas que cette dimension qui joue. Je vois l'aspect qui concerne le Soudan et je pense, à mon point de vue, que désormais, il faut considérer le rôle des États-Unis en République démocratique du Congo autrement. Je crois que désormais, les Américains veulent jouer un rôle de premier plan et avoir des informations sur le terrain par eux-mêmes, par leur propre service. Parce que vous comprendrez qu'il y a quelque temps, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, la République démocratique du Congo, je vais le dire entre guillemets, était quelque peu sous-traitée par la Belgique. C'est la Belgique qui prétendait avoir assez d'expertise sur la République démocratique du Congo, qui imaginait des plans et qui tentait de les défendre en Europe, qui tentait de les défendre à Washington. Là, moi, je crois comprendre que les Américains ont décidé de jouer directement un rôle, ça veut dire de prendre les choses en main. Donc, nous devons nous attendre dans les mois à venir, dans les années à venir, à une implication plus accrue des États-Unis dans la politique congolaise.
Oui, le projet, comme l'a dit Mike Nkobayi, il dit qu'avec cette loi, les Américains veulent jouer un rôle de premier plan en République démocratique du Congo. Vous êtes de cet avis?
Un rôle de premier plan, d'autant plus que depuis déjà le mois de janvier, il y a l'implantation non loin de Kisangani,
janvier
2010, d'un bataillon d'infanterie légère formé par les Américains. En fait, depuis une dizaine d'années, la province orientale, cet axe province orientale, Ouganda, République centrafricaine, est devenue une sorte de plaie ouverte en Afrique avec les attaques incessantes des rebelles de LRA. Et cela a toujours constitué une sorte d'instabilité pour cette province, cette partie du continent africain qui, du reste, est une des régions les plus riches. Et ça ne pouvait pas ne pas susciter l'attention de la communauté internationale. C'est vrai, il y a eu beaucoup de reportages ces derniers temps, notamment les chaînes américaines comme CNN, Fox, les journaux comme USA Today, qui ont fait des reportages sur le comportement des LRA sur le terrain. Donc l'Amérique, les États-Unis avaient compris qu'il y avait intérêt d'agir, de jouer un rôle de premier plan pour pacifier cette région. Et comment? En investissant, en jouant lui-même le rôle de premier plan. Et ce texte de loi vient bien à propos parce que cela confirme justement l'implication des États-Unis d'Amérique dans la pacification de la partie nord de la République démocratique du Congo.
Patel Bamanaï, pourquoi seulement maintenant, pourtant la RRA s'agit d'en faire partie de l'Afrique depuis plusieurs années, c'est seulement maintenant que l'Amérique prend conscience du fait qu'elle doit s'impliquer pour mettre hors d'état de nuire cette rébellion ougandaise?
RDS. Bon, mais je dirais que cela est justifié par l'intérêt qui est présent sur la RDC. Nous sommes dans notre position géographique, témoigne de beaucoup de choses sur la scène internationale. Par les richesses qu'il y a au Congo, on ne peut pas comprendre que ces pays qui aient des rébellions, qui trouvent la vie facile au Congo, qui pillent les Américains avec leurs moyens, ils veulent se positionner aussi au Congo, par peut-être entrer par là, pacifier un peu la partie qui est occupe la LRA, et aussi vu les atrocités, il faudrait quand même défendre la population. Mais je veux dire une chose, soulever un point. Pour moi, je suggère que le gouvernement congolais prenne les choses en main. Plus de 8000 km, les Américains prennent des décisions pour intervenir au Congo. Mais nous-mêmes, nous, Congolais, où sommes-nous?
Mais là, le FARDC sont depuis plusieurs mois en train d'opérer dans cette région avec comme objectif de mettre hors d'état de nuire cette rébellion.
Oui, je ne discute pas, mais je dis qu'il faut accentuer, il faut des actions permanentes, il faut mettre des moyens aux FARDC, il ne faut pas qu'on attende que les FARDC ont pillé, ils ont tué la population. Il faudrait qu'on voie, parce qu'il y a des informations qui, dans le passé, à Faradji, là où les RLA sont passés, on disait que les policiers pillaient encore la population. Il faudrait qu'on mette des moyens, suffisamment de moyens, parce que nous risquons de tomber en disant non, les Américains occupent le Congo. Non, il faut qu'on donne la responsabilité au gouvernement congolais de poursuivre les RLA.
Voilà, Martin Kebayi, Pascal Bamanaï vient de parler de la responsabilité de la République démocratique du Congo. En fait, cette fois, c'est un élément d'appoint. Mais quel peut être l'apport de la RDC quand ça concerne l'application de cette loi?
Moi, je ne vois aucun apport de la RDC. Je crois que notre apport à nous doit être plutôt tourné vers nous-mêmes. C'est qu'il nous faut aller vers la communauté internationale, reconnaître nos faiblesses, mais en même temps présenter des schémas, des plans qui nous permettent de consolider l'État congolais. Ce qui est regrettable, c'est que l'État est complètement, les structures de l'État sont complètement minées par la corruption. Donc, alors, vous ne pouvez pas vous attendre à une refondation dans les prochains mois, dans les prochaines années. De l'État, c'est impossible. Nous travaillons, nous tous, chacun, à des degrés divers, à affaiblir l'État. Personne d'entre nous ne veut voir un État fort. Parce qu'un État fort, c'est cet État qui va interpeller un ministre, c'est cet État qui va juger un ministre et qui va le condamner. Et cet État-là, personne n'en veut. C'est un système auquel tous participent, à des degrés divers, même dans le rue.
Je peux dire que personne n'en veut, peut-être une certaine opinion.
D'accord, c'est une façon de parler, mais dans la grande majorité, même dans le rue, vous verrez des gens faire le loge, glorifier, je suis ministre, je quitte mon poste de ministre, je rentre dans ma modeste maison que je loue à Bandal, les gens vont se moquer de moi. Je détourne l'argent de l'État, j'achète un terrain, je construis un immeuble de 8 niveaux, les gens du quartier disent « Viewana Timbeli ». En fait, vous voyez-vous qu'à tous les niveaux, nous participons à cette corruption. Qui, elle, nous amène à cet affaiblissement de l'État. Donc, notre contribution à nous aujourd'hui n'est pas de dire que voilà, nous allons combattre les LRA, alors que nous n'en avons pas le moyen.
Parce que l'armée américaine ne va pas venir combattre ici, chez nous.
Non, l'armée américaine vient pour une mission spécifique. Mais le problème, c'est que nous devons nous bâtir une armée qui puisse assurer la défense du territoire national. C'est tout un processus. Nous avons très mal commencé ce processus. Nous avons intégré dans l'armée même des éléments maï-maï qui, en fait, ne sont que des résistants qui n'ont pas appris l'art militaire. C'est ça le problème. Nous avons
le prix à payer pour...
Non, ce n'est pas le prix à payer. Beaucoup de pays dans le monde ont connu une histoire analogue à la nôtre. La France a connu la résistance. Il y a eu des gens, des civils qui se sont engagés dans l'armée. Mais à la fin de la guerre, ils sont rentrés dans la vie civile. Nous avons pris ici des colonels qui ne sont passés par aucune école. J'en ai rencontré un jour qui était déclaré en douane, qui est devenu colonel de l'armée. Comment voulez-vous bâtir une armée? Nous ne faisons aucun effort pour reconstituer les unités spécialisées, par exemple l'unité de parachutistes, l'unité je ne sais pas quelle unité. Nous ne faisons aucun effort.
Mais la réforme de l'armée est en cours.
Non, cette réforme est mal partie, c'est ce que j'ai dit. Les bases n'ont pas été respectées. Nous aurions dû encourager nos compatriotes maï-maï à retourner dans la vie civile, par exemple. Parce que un militaire, c'est un processus, c'est un CI, un centre d'instruction pendant 6 à 9 mois pour qu'il apprenne l'arme militaire. Or, le Mai Mai, on lui a appris qu'à monter et à démonter l'arme et à tirer, et peut-être à se mettre à couvert. C'est cela tout le problème. Ce processus est mal parti. Je crois qu'il est grand temps que nous réfléchissons.
Oui, Luc Rogier, cette approche globalisante qui oblige les trois pays, en fait les quatre pays qui sont concernés, l'Ouganda, la République centrafricaine et le Sud-Soudan et la RDC, de s'impliquer pour déloger la LRA. Et vous pensez que cette approche globalisante est susceptible de porter les fruits escomptés?
Il faut compter d'abord, il faut compter bien sûr sur cette approche globalisante parce que la crise provoquée par la LRA, les attaques de la LRA touchent trois pays, pratiquement. Et il y a l'Ouganda, la RDC et la République centrafricaine.
On parle aussi du Sud-Soudan.
Oui, du Sud-Soudan, il y en a même quatre. Hein. À chaque fois quand ces rebelles organisent, à chaque fois quand ils opèrent des incursions, l'autre les poursuit, par exemple par l'armée congolaise, ils se réfugient en République centrafricaine. Et là, pour arriver à mettre hors d'état de nuire ces rebelles, il faut une action, il faut une conjonction d'action menée par les différentes forces armées ougandaises, centrafricaines et congolaises. Et là, il y a une responsabilité collective d'abord pour essayer de mettre hors d'état les rebelles. Et puis il y a une responsabilité individuelle. Puis chaque pays, à son niveau, doit préparer des stratégies pour combattre la LRA. Or, il se pose un problème justement ici. C'est le problème de la formation d'une armée structurée et intégrée qui s'est toujours posée depuis San City. On a comme l'impression que les gens ne veulent pas voir dans ce pays une armée forte. Et c'est là le problème. Parce que l'Amérique peut bien s'impliquer, donner suffisamment de moyens, apporter son expertise pour lutter contre les FARDC. Mais si sur le terrain, les éléments qui sont sur place, les éléments nationaux qui sont sur place, n'arrivent pas à bien tirer leur épingle de jeu. Croyez-moi, la LRA sera toujours plus virulente qu'on le croit.
Pascal Bamanaï, l'on parle de 10 millions de dollars américains prévus pour une période de 3 ans. Pensez-vous que c'est suffisant quand on sait que 4 pays sont concernés? Pensez-vous que 10 millions c'est suffisant?
Oui, là ce sont les Américains qui ont mis un paquet de 10 millions. Mais il faut voir aussi dans chaque pays qu'est-ce qu'ils proposent pour combattre les LRA. Parce que moi, je vous dis, il ne faut pas qu'on soit toujours la politique de main tendue pour nous défendre. Il faut que les Américains, il faut qu'on cesse. L'Afrique doit cesser avec cette politique-là. Nous devons prouver de quoi nous sommes capables. Il y a des hommes et des femmes ici au Congo. L'armée est là, il faut qu'on mette des moyens pour l'armée, la police. Il n'y a pas de moyens. Sortez seulement, vous allez voir la rue, combat les polices. Aujourd'hui, il y a les militaires qui m'en disent, non, on ne peut pas avoir l'armée déjà comme ça. Même des officiers, il faut qu'on donne des moyens. Chaque pays doit contribuer. Les Américains, oui, mais chaque pays doit contribuer. On ne peut pas comprendre, comme l'aîné Mike a dit ici, la corruption continue du moment où une partie du pays est occupée. C'est normal. Il faut qu'on mette le paquet. Chaque pays doit contribuer. Et efficacement et informer, comme je dis, l'armée efficace pour défendre l'intégrité territoriale.
Oui, Mike Mukebayi, cette loi est intitulée « Loi relative au désarmement des armées des résistances du Seigneur et à la relance du nord de l'Ouganda ». Pourquoi on dit seulement la relance du nord de l'Ouganda alors que nous savons que c'est les civils congolais qui sont les victimes dans cette situation?
Non, je n'ai pas trouvé d'explication très claire sur cette question. Je vais essayer d'entrer en contact avec les services presse de l'ambassade américaine qui m'ont laissé entendre que l'ambassadeur allait donner une conférence de presse peut-être la semaine prochaine pour un meilleur entendement. Je me posais moi-même la même question en venant parce que je n'ai pas encore pu pénétrer réellement l'esprit de cette loi. On suppute un peu là-dessus. Mais je voulais en profiter pour ajouter un élément par rapport à ma réflexion à la première question que tu m'as posée. C'est qu'il faut aussi comprendre la politique d'endiguement de l'islamisme que les États-Unis développent dans cette région. C'est-à-dire pour les États-Unis, l'Ouganda, le Rwanda doivent représenter des bastions pour empêcher l'avancée de l'islamisme qui a déjà gagné une grande partie du Soudan. Et il faut reconnaître aussi que cette zone-là est une zone propice au terrorisme. Si le terrorisme ne s'y pratique pas déjà, qu'on se souvienne des attentats de Nairobi et de Dar es Salaam, donc c'est une zone qui est sous haute surveillance. Les Américains surveillent énormément cette zone-là. Et il faut comprendre dans cet enjeu-là le rôle du Rwanda, qui est devenu en fait le pays relais pour les Américains pour aller de l'autre côté de l'océan Indien. C'est le Kenya qui avait joué ce rôle par le passé. C'est ce qui explique aujourd'hui la présence accrue, si je peux dire, militaire américaine à Kigali. Et même à un moment donné, on avait commencé, c'est à l'époque où j'étais au Rwanda, je crois que les travaux ont continué, on avait même commencé les travaux de l'élargissement de la piste de l'aéroport de Kanombé, l'aéroport international de Kigali, pour recevoir le gros porteur américain qui devait passer par là pour aller ensuite dans l'océan Indien. Donc c'est une région particulière. Je sais que depuis un certain temps, les Américains veillent beaucoup. Il y a aussi la dimension des réfugiés, qui sont un grand nombre dans cette région. C'est une population cible. Ce sont les foyers dans lesquels le terrorisme récite le plus facilement. Parce qu'ils peuvent te prendre un enfant de 10 ans qui n'a pas de parents. C'est facile de l'idéologiser et d'en faire demain une bombe humaine. Il n'a rien à gagner. Il a tout perdu. Il ne connaît rien. Je sais qu'il y a eu une politique américaine à un moment donné de surveiller régulièrement des camps de réfugiés et de savoir si des gens n'avaient pas disparu dans des camps de réfugiés. Si des gens, notamment des hommes, de quel âge n'avaient pas disparu. Donc c'est une région qui est sous haute surveillance américaine depuis un certain temps.
Et à votre avis, pourquoi ce genre d'initiative n'a jamais été prise contre les FDLR?
Non, je crois que les Américains ont proposé une solution pratique que moi j'ai appuyée à l'époque, que j'ai vraiment partagée. Les Américains nous ont proposé une opération, une offensive militaire conjointe avec le Rwanda. Le problème, à mon point de vue, c'est que Kinshasa n'a pas eu le courage de convaincre sa population de l'Est d'accepter cette initiative. Elle n'a duré qu'un mois ou un mois et demi. Et oui, il y a eu beaucoup de cités, les Rwandais sont partis. Mais cette initiative ne venait ni de nous, ni de Kigali. C'est encore une initiative de la dimension américaine. Dommage qu'on n'ait pas eu le courage de dire la vérité en face à nos populations, implorer à la limite même à cette population d'accepter.
Oui, les projets.
Je voulais ajouter quelque chose que peut-être les gens ne relèvent pas, mais qui, c'est vrai, c'est la loi pour développer le nord également de l'Ouganda, insiste sur le nord de l'Ouganda, mais il y a une action également importante, je ne sais pas, on a parlé de l'implication de la lettre ouverte de la société civile de Niagara, voilà. Qui a été également un élément catalyseur, parce que ça a poussé le président Obama à agir, à prendre une décision.
Il faut saluer les ONG dans l'action et à la base
de l'adoption de cette loi. Également, l'action menée par le commandant de la 8e région militaire, le général Kifoua, qui s'est battu. Moi, je sais, j'ai suivi quand il y a eu des experts américains qui sont venus là-bas, qui insistaient sur cette nécessité d'impliquer tout le monde parce qu'il lui valait derrière la sécurité de toute la région. Et ça, il y a des gens qui ont mené des actions dans les coulisses et qui, aujourd'hui, ont porté les fruits. Donc, il y a une implication, il y a une forte implication de la société civile congolaise qui a fait que les États-Unis se sont décidés finalement d'aller de l'avant et d'agir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut également souligner.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Lancement depuis mardi d'un nouveau regroupement politique au sein de la majorité présidentielle dénommée France libérale et patriotique. Ses principaux ténors à l'Assemblée nationale sont les forces du renouveau de Niger Kamita Touré Antipa Sembusayan Moïse, les groupes politiques des indépendants de Modeste Bati Doukwebo, les chrétiens démocrates et fédéralistes de José Ndoundou, ainsi que les courants rénovateurs. Ils affirment qu'ils sont toujours membres de l'ANP, cependant, ils dénoncent l'échec du gouvernement. Suivons cette analyse de Julien Nyamouni.
La fronde qui avait commencé à l'Assemblée nationale par la création d'un courant dit des rénovateurs au sein de l'Alliance pour la majorité présidentielle n'était pas fortuite. Il était un véritable ballon d'essai avec des objectifs précis. C'est donc ce courant qui a abouti à la création du regroupement politique dénommé Centre libéral et patriotique. En effet, ce regroupement politique a vu le jour au lendemain de l'échec de la motion de censure contre le gouvernement d'Adolphe Mouzito, initiée par l'opposition. Une motion largement signée par les députés partisans de force du renouveau piloté par Olivier Kabikato, ministre du Plan. Ce soutien d'une partie de la majorité à une motion initiée par l'opposition démontre effectivement un malaise au sein de la majorité au pouvoir. Ce malaise, disais-je, est lié aux revendications pas très claires aussi bien des forces du renouveau d'Olivier Kabikato que des chrétiens démocrates fédéralistes et CDF de José Ndoundou Bononge, ministre de l'Environnement et du Tourisme. Le plus surprenant dans tout cela, c'est l'entrée inattendue dans cette constellation du groupe politique des indépendants sous la direction de Modeste Baraki Lukwebo. En croire toutes les sources, ces revendications sont fondées sur le partage du gâteau considéré par les contestataires comme illégal. Alors, trois questions se posent. Pourquoi avoir attendu la veille de prochaines élections? Pourquoi n'a-t-on pas revendiqué à temps? Pourquoi veut-on qu'on change les règles du jeu à la fin du match? Conséquence, face à cette situation, si le centre libéral patriotique ainsi que l'opposition font bloc, la majorité peut changer au sein de l'Assemblée nationale. D'après plusieurs analyses, si le chef de l'État ne peut pas travailler avec cette nouvelle majorité, il sera bloqué. Dans ces cas, il sera amené à dissoudre l'Assemblée nationale.
L'écho Roger Mbala, la création de cette plateforme, est-ce que pour vous une surprise?
Moi, ça ne me surprend pas outre mesure. Je l'ai toujours dit, l'ARP, je l'ai toujours considéré comme un panier à crabe. C'est-à-dire chacun qui est arrivé dans cette plateforme avait un agenda. Et je me disais qu'un jour, le mécontent finiront bien par partir.
Donc, c'était prévisible.
C'était prévisible. On a vu des gens qui étaient au début enthousiasmés par la création de cette plateforme, qui aujourd'hui critiquent pratiquement la structure. Mais moi, je crois qu'ils ont tout à fait tort. Ils attendent que le processus tend vers la fin pour pratiquement quitter le navire. Allez, qui s'est moqué?
Et votre journal observateur, qui a suivi mai dernier, dit ceci sur la machette: avec la création du centre libéral et patriotique CLP en sigle, la majorité présidentielle vole-t-elle en éclat? Pensez-vous que la majorité présidentielle vole en éclat?
C'est ça notre inquiétude. Nous, on se dit que si, avec ce départ, il y a fort à parier qu'on assiste à une sorte de balkanisation de la majorité. Encore faudra-t-il que la section restée dans cette plateforme arrive à bien gérer la situation. Mais je me demande quel avenir pour ceux qui vont, ceux qui sont allés créer cette nouvelle structure qu'on appelle centre
libéral.
Quel avenir pour eux à quelques mois des élections? Est-ce qu'ils auront, quel discours ils auront à tenir devant la population? Et qui ont, si c'est vraiment là, ils peuvent échouer, mais ils étaient ensemble avec eux. Les acteurs politiques congolais nous ont habitués à ces genres de régnements, de trahisons.
Mais il faut préciser que les personnes qui ont créé ces regroupements n'ont pas quitté l'ANP. Ils sont toujours membres de l'ANP.
Oui, ils le disent de façon officielle, mais quand vous voyez leur attitude vis-à-vis de la charte même de l'ANP, créant l'ANP, il y a une certaine violation. Ils ont surpris ceux qui sont restés. Donc il y a matière à réflexion pratiquement pour la population.
Oui, Pascal Bamanaï, peut-on affirmer que cette crise qui s'est prouvée au sein de l'ANP a finalement éclaté?
Oui, certainement, ça a éclaté au grand jour, mais moi je me dis, c'est là, ça saute aux yeux qu'il n'y a pas de cohésion au sein de l'ANP. Et quelles sont les raisons fondamentales qui ont fait que 4 personnes, une dizaine ou une vingtaine de personnes se regroupent et créent un autre regroupement politique? Je me dis, là, c'est une distraction pure. C'est dit quoi? Pour nous, qu'est-ce que l'ANP dira demain? Nous allons faire les élections à la population. Il ne faut pas distraire la population. L'action politique doit avoir pour finalité de satisfaire la population. On ne peut pas poser des actes pour des intérêts personnels, se retrouver, puisqu'on ne se retrouve pas au gouvernement, parce qu'on n'a pas tel dossier, et crier n'importe quoi. Non, l'action politique doit aboutir à satisfaire la population. On a besoin. Et l'ANP, lorsque nous aurons des élections, ceux qui ont formé l'ANP nous disent qu'il y a des tels emplois, nombre d'emplois, les sociétés créées, les hôpitaux créés, satisfaire l'intérêt général. Ça, c'est une distraction pure et simple. Et si on n'est pas parvenu à ces résultats, et ne serait-il pas logique que certaines voix s'élèvent pour essayer de conscientiser les membres de l'ANP? C'est bien beau, mais c'est un retard.
À une année à la fin de la mandature,
c'est un retard. Parce qu'il y a eu des problèmes. Ça ne date pas d'aujourd'hui au sein de l'ANP. Entre eux, ils se disent qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes.
Oui, Mike Nkebaï, comment vous analysez les revendications de ces courants? Parce qu'ils parlent de l'échec du gouvernement.
Non, je n'en connais pas les revendications de la part de ces courants.
Ils évoquent l'échec du gouvernement.
Ouais.
Ils disent que le gouvernement a échoué sur tous les dossiers.
J'ai suivi Olivier Kabila tout lui dire, mais c'est un échec qui est partagé. Il est resté dans ses gouvernements depuis le début de la législature. Il est dans ses gouvernements, c'est un échec partagé. Il faut que les gens aient le courage de s'assumer. Je suis dans un gouvernement avec un premier ministre et je me rends compte que nous faisons fausse route, c'est moi qui décide de partir du gouvernement et de prendre l'opinion à moi pour dire que je ne suis pas d'accord. Je veux recentrer un peu.
Donc, pensez-vous qu'au préalable, les personnes devaient démissionner?
Mais vous n'êtes pas d'accord avec la politique de votre propre gouvernement, d'une majorité. Vous quittez cette majorité ou vous quittez ce gouvernement. Le problème, c'est que c'est tous des gens incapables de vivre en dehors du pouvoir. C'est ça leur problème, fondamentalement. Ben alors qu'ils se taisent, plutôt que de provoquer des petites tempêtes qui ne sont que des tempêtes dans un bénitier. Parce que la question fondamentale, c'est que jusqu'où ils iront? Kabila est revenu très vite et il a tapé du poing sur la table, il les a reçus, il a été très ferme, il leur a demandé de renoncer à cette initiative. Nous attendons jusqu'au 4 juin, date de l'expiration de la mise en demeure. Ce que Kabila leur a demandé, c'est décidé avant les 4 jours de son anniversaire. Déjà, c'est très symbolique pour lui. Alors, ils ont jusqu'au 4 juin pour dire si oui ou non, ils vont continuer. Mais je ne le vois pas capable de continuer. Je ne le vois pas capable de vivre en dehors de la majorité, surtout que les élections approchent.
Mais au-delà de ces préjugés que les gens se font sur ces personnes, les fonds du problème, ils posent son problème.
Mais c'est cela le problème. Ils ont reproché le gouvernement, au gouvernement ceci, ils parlent de l'échec du gouvernement. Ils ont mis en place un cartel centre libéral patriotique. Mais est-ce qu'ils ont présenté une contre-proposition en disant à Joseph Kabila, ce qui nous donne le pouvoir, voilà ce que nous allons faire du Congo dans une année? Ça, ils ne l'ont pas fait. C'est simplement du hauteur de là que j'ai mis mettre. Je n'ai pas vu un programme pour les 12 mois à venir, et c'est là qu'ils peuvent séduire Kabila. Et je trouve que d'ailleurs leur initiative est tout à fait démocratique, même si moi je suis critique. S'ils peuvent séduire Kabila avec un programme dans les 12 mois, pour dire, nous pouvons faire plus que Adolphe Mouzito, nous pouvons faire plus que les Palous, et voilà, nous ce que nous vous présentons. Ça, j'aurais trouvé que c'est vraiment rationnel. Mais il n'y a eu aucunement cette rationalité. C'est avant tout une volonté de se succéder à l'autre.
Mais l'autre n'est pas d'accord avec une certaine façon de voir la chose. Est-ce qu'il est interdit de le dire?
Non, j'ai dit que c'est une démarche démocratique que j'ai faite, ils sont libres, c'est légitime, mais j'allais terminer sans plus dire. Vous êtes au sein d'une plateforme, et c'est là que les politiques congolais sont toujours maladroits. Pas stratège, pas du tout politique. Comment vous pouvez créer un courant et le doter d'une charte? Un courant est une spécificité dans la façon de voir dans un groupe. Un courant se constate. Un courant ne se crée pas. Quand on dit un courant, c'est que Luc Roger et moi, dans un groupe de 20 personnes, chaque fois que nous nous retrouvons, nous finissons par nous rendre compte que bien que acceptant la démarche globale du groupe, mais nous avons des spécificités que nous partageons. Nous mettons en place un courant. Vous mettez en place plutôt un courant avec une charte et vous appelez à des adhésions. Ça veut dire que vous développez même l'ambition de phagocyter les grands groupes. Alors là, en ce moment, les chefs du groupe ne peuvent pas vous laisser faire. C'est clair, vous devenez dangereux. Ils n'ont même pas été adroits dans leur démarche. C'est cela le problème.
Du projet, il ne s'agit pas d'un repositionnement à l'approche des élections.
Mais je l'ai dit tantôt, chaque fois, et vous savez, dans l'histoire du Congo, depuis la transition, et on assiste à des repositionnements à chaque fois qu'il y a des échéances. On a vu ça à Sam City, il y a eu des gens qui ont trahi, il y a eu des gens qui ont régné leur structure politique. Donc en fait, c'est ça, c'est un peu l'ambiance à laquelle nous habituent les acteurs politiques congolais. C'est un paysage tout à fait pollué, hein, des actes de trahison, de régnement, des tricheries, et c'est ce qui nous conduit jusqu'à. Moi, je dis quelque part, la population congolaise n'est pas dupe. Au bout de cette chaîne, il y a les élections. Les gens vont juger qui a fait quoi, qui a apporté quelque chose pour la population. Et le peuple a suffisamment de culture politique pour sanctionner ceux qui veulent les distraire.
Et Pascal Bamanaï, comment vous entrevoyez l'avenir de l'ANP?
Là, il faut que l'autorité morale de l'ANP redresse les tirs.
puisque il ne faudrait pas que ceux qui sont membres de l'ANP conduisent l'ANP à leur guise, à leur manière. Non, là, c'est porter même atteinte à l'autorité morale de l'ANP.
Absolument.
L'autorité morale, pas que lui, il a donné des consignes, il faut ça, mais les joueurs fonctionnent. Et un dialogue ne pourrait pas dissiper cette crise. Un dialogue, oui, mais pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi, comme les Mike vient de dire, il faudrait peut-être recentrer les choses quand vous êtes au gouvernement. Si les trois sont au gouvernement, et c'est là qu'il faut partager les choses. Et c'est l'ANP qui est au pouvoir. Il faut qu'on combatte ça. L'ANP a l'effectivité du pouvoir. Il a l'effectivité du pouvoir.
Merci. Nous passons à notre dernier thème ce soir. Le député national Martin Mokonkolé de l'opposition et un magistrat des sièges sont traînés depuis mercredi dernier devant la haute cour dans une procédure de flagrance. Hier, jeudi soir, le député national de l'opposition Martin Mokonkolé a été conduit vers une autre destination par la police pendant que la Cour suprême venait d'ordonner par un arrêt qu'il soit plutôt assigné à résidence surveillée. Cet incident a créé un tollé général parmi les juristes et les députés nationaux qui expriment leur indignation. Suivons ce reportage de José Deschartes Menga, qui était sur place.
Dans une brève audience publique, la Cour suprême de justice a ordonné que Martin Mokonkolé soit placé à résidence surveillée. Ceci à l'arrêt de ses avocats qui ont demandé que la Cour constitutionnelle se prononce d'abord sur la constitutionnalité de la procédure. Cet arrêt avant dire droit a créé la joie des avocats et des députés présents qui se sont même félicités de la décision de la Cour suprême. Quelques minutes après, illusion totale. Un secrétaire divisionnaire du parquet général de la République se pointe et foule au pied l'arrêt de la plus haute cour du pays. Il dit avoir reçu des instructions pour que les députés aillent plutôt en prison. Cris de colère, coups de gueule de députés et autres sommités du droit en RDC présents à la Cour suprême. Après près de 30 minutes de confusion, le député a été embarqué dans une jeep de la police d'intervention rapide PIR pour une destination que nous ne savons pas encore. Les avocats du député s'interrogent si le droit existe encore dans ce pays quand on foule au pied l'arrêt de la plus haute juridiction du pays.
Pascal Bamanaï, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Votre analyse par rapport à cette affaire procureur de la République contre Martin Mokonkolé et consorts.
Nous avons appris que Martin Mokonkolé, député, l'élu de Cabinda dans le Kasaï oriental, a été poursuivi par la Cour suprême de justice du chef de trois infractions, vol, recel et association des malfaiteurs. Moi, ce qui m'intrigue dans ce procès, c'est l'interprétation qu'on fait à la Cour suprême de la flagrance. Donc, on doit faire très attention. Si le droit judiciaire, s'il est violé au tribunal de paix, on peut aller en appel. Au tribunal des grandes instances, on peut encore aller en appel ou à la Cour d'appel. Mais si le droit judiciaire, au niveau de la Cour suprême, est violé, ça, c'est fini. Parce que la Cour suprême les juge qu'en premier et dernier ressort. Vous n'irez nulle part. Donc, au niveau de la Cour, j'en appelle aux magistrats de la Cour de bien dire le droit. Parce que nous n'irons nulle part si nos droits sont violés devant la Cour suprême de justice. C'est ce que j'ai dit, qu'on interprète bien les choses.
Oui, Luc Roger Mala, vous êtes directeur des rédactions au quotidien d'Observateur, un journal qui paraît à Kinshasa. La Cour constitutionnelle devra se prononcer sur l'exception de l'inconstitutionnalité soulevée par la défense, qui estime que la Constitution n'a pas été respectée dans cette affaire. Et pensez-vous que cette défense pourra obtenir gain de cause?
Bon, j'ai confiance à la justice, mais moi, j'espère que la loi sera bien dite. Mais ce qui m'a plus choqué, c'est les méthodes un peu propres à des républiques bananières, la manière dont nos députés ont été arrêtés. Il y a une procédure. Ils sont quand même déshonorables, élus par le peuple. Il y a une procédure pour arrêter ces genres de personnalités. Et moi, ça me choque quand on dit que non, l'ordre est venu d'en haut. Ce sont des méthodes, justement, que nous déplorons. Ce sont des vieilles habitudes, des habitudes rétrogrades que nous avons toujours déplorées. On donne une injonction, on vient, on arrête quelqu'un comme un vulgaire bandit. C'est un député. On devait respecter toutes les procédures pour pouvoir le conduire. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez toute la meute des députés et autres magistrats. Oui, ils sont restés sur place. On me dit qu'ils sont à l'heure et qu'ils sont à la prison centrale de Matal pour mener une action pour faire que M. Mokonkolé soit libéré et il soit traité dignement.
Oui, Maxime Mokebaï, je rappelle que vous êtes directeur du journal Congo News, c'est un bi-hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. La défense affirme qu'il n'y a pas flagrant fait, hein, parce que les faits évoqués se seraient déroulés en 2009, donc il y a à peu près une année, hein, et le vote que les temps voisins aussi, un passé très récent, donc un, deux ou trois jours, et s'il n'y a pas de flagrance, comme l'a dit la défense, et comment expliquer cette précipitation avec laquelle les députés ont été arrêtés?
Comment l'expliquer autrement? Mais le reportage de Radio Okapi qui est passé tout à l'heure est formidable. Il se passe de tout commentaire. Quand on arrive à fouler au pied l'arrêt de la Cour suprême de justice, vous imaginez dans quelle république nous nous trouvons? Tu es en insécurité, je suis en insécurité, ici où je suis en sortant, on ne peut me prendre n'importe quand, n'importe où, pour m'enfermer, je ne serai pas défendu. On nous prive de notre droit à la liberté, on nous prive de notre droit à nous défendre devant la justice. Ça c'est très clair et ça c'est regrettable que ça arrive aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à 50 ans de l'accès à l'indépendance du pays et que de tels actes soient encore posés et tolérés dans la société, surtout qu'il s'agit d'un régime qui s'est dit révolutionnaire, qui est arrivé pour un changement, que de tels actes soient posés, nous interpelle. Et vous remarquerez un élément, je prends un élément, un petit élément, pour la politisation de ce procès. Ce procès est couvert pleinement par la RTNC. Pleinement parce qu'il s'agit d'un député de l'opposition qu'on veut livrer aux gémonies. Mais il y a un autre procès plus sensible, celui de Daniel Botetti, l'ancien vice-président de l'Assemblée provisoire de Kinshasa, assassiné. La RTNC n'a jamais couvert ce procès-là.
Alors, quelles sont les leçons tirées de cette affaire?
Les leçons qu'on peut tirer, c'est que nous avons encore beaucoup à faire en ce qui concerne notre justice. La leçon que nous pouvons tirer, c'est que quand vous allez dans chacun des sous-commissariats, vous trouverez des simples gens, ceux qui n'ont pas de parents, qui ont des bras longs, qui ont des relations. Vous les trouverez là, à la merci d'un lieutenant, d'un OPJ. Et même quand il n'a pas commis une infraction, on dit, monsieur, on peut te retenir ici pour raison d'enquête et il est obligé de payer 20 ou 30 dollars. Nous sommes rançonnés chaque jour par la justice de notre propre pays.
Et les projets, quelles leçons peut-on tirer de cette affaire?
La leçon que moi j'ai tirée personnellement de cette affaire, c'est que notre justice a encore du chemin à parcourir. C'est vrai, nous avons des très bons magistrats, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous devons nous écarter de certains anti-valeurs qui ternissent l'image des marques de notre justice sur l'échiquier tant national qu'international.
Et Pascal Bamanaï, la leçon qu'on peut tirer?
Il faut qu'on réforme la justice congolaise.
Merci, c'est la fin de cette émission. Eric Yakala était à la technique, Alain Irung à la réalisation, assisté de Samuel Kachak, et sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, devant ce micro Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Okapi.
I'm going to go to the hospital.
Okapi, Okapi.